vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023.
9h42, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h pour ce colloque éthique où on va parler, vous avez dit investir, responsabilité environnementale des entreprises. Encore une fois, est-ce que les entreprises dans ce pays sont toujours les boucs émissaires d'une politique ou d'une faillite politique structurelle? C'est tout l'objet de nos échanges, puisqu'il faut quand même rappeler que la vitalité d'une bonne démocratie, c'est pas Frédéric Ancel qui va me contredire, c'est quand même le débat, voilà, le débat. Avant toute chose, même si on dit des choses vous m'avez compris. Loïc Lefranche-Prigent, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes président directeur général de LLFP Consulting. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai annoncé, il est essayiste, géopolitologue, professeur de relations internationales à PSB, me semble-t-il.
Et à Sciences Po Paris.
Et merci. C'est Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Également Pierre-Yves Burlot qui est avec nous, directeur du développement durable chez Sèche Environnement. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour, c'est chez Environnement.
Excusez-moi. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors la question, vous avez écouté l'introduction de l'autre côté lorsqu'on a ouvert avec Hervé Novelli et Guillaume Poitrinal ainsi que Sophie de Monton. Moi la question que j'ai envie de vous poser directement à vous Loïc Lefranche-Prigent, faut-il être vert aujourd'hui nécessairement pour vivre de son industrie?
Il faut être vert forcément si jamais on considère que l'important c'est de défendre l'environnement et de tenir compte à tout instant de l'environnement. C'est vraiment pourquoi? Parce que une entreprise a comme patron le client et le client demande aujourd'hui que les entreprises défendent mieux l'environnement. Donc il n'y a pas de discussion à cet égard. Si on appelle ça être vert, à ce moment-là, c'est là que ça diverge. C'est-à-dire qu'il y a des définitions qui sont prises par un certain nombre de clients ou par des gouvernements qui disent « le vert, c'est ça ». Le vert, c'est ça. Donc c'est qui définissent et qui portent à la fois des bons points et des anathèmes. Alors, sur les bons points, il est clair que l'ensemble du travail qui est fait pour le recyclage, pour essayer de maîtriser la durée de vie des produits, etc., tout ça va dans le bon sens. Par contre, les anathèmes, c'est quand on dit, il faut que vous preniez, pour défendre l'environnement général, il faut que vous preniez un véhicule électrique. Pour défendre l'environnement, il faut que vous fassiez l'éolien. Et pour défendre, alors quand on dit ça, quand on a un choix technique ou quand on porte un anathème, alors là, on a forcément tort. Et il faut que le chef d'entreprise raisonne en disant mais est-ce que c'est bien comme ça que ça va se passer? Alors si je prends le cas du véhicule thermique et du véhicule électrique, il est clair que sur la Paris, on peut dire. Eh bien, je vais faire en sorte que l'environnement de Paris soit plus agréable et par conséquent, je vais favoriser les véhicules électriques, ça c'est une chose. Si maintenant je raisonne au niveau de la France tout entière, c'est moins vrai. Et si je raisonne au niveau du monde, comme avant que le monde ait de l'électricité partout, eh bien, il faudra attendre 150 ans ou 200 ans, on va peut-être essayer d'avoir des véhicules thermiques, une cohabitation entre véhicules thermiques et véhicules électriques. Or, la question qui est aujourd'hui posée aux industriels de l'automobile, mais aussi à l'ensemble de la sous-traitance, c'est le véhicule thermique est prohibé et par conséquent vous allez faire du véhicule électrique. Très bien, mais à ce moment-là, qu'est-ce que je vais vendre aux pays qui n'ont pas d'électricité? Je vais vendre autre chose et j'ai pas le droit de le fabriquer, donc je délocalise la fabrication. Donc c'est là où l'anathème devient une difficulté pour les entreprises, pour l'industrie. Et ces anathèmes, c'est le véhicule électrique, c'est à certains moments en France, vous l'avez vu, le plastique bashing. On pue plus de plastique, on fait plus de plastique, on fait plus de plastique. Bon, en fait, bien sûr qu'on va avoir du plastique. On va augmenter le plastique dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est léger et qu'effectivement, si jamais on veut faire des économies d'énergie, on faut remplacer le métal par le plastique dès qu'on peut, de façon allégée. Voilà. Donc, faut faire attention. Oui, il faut défendre la nature, oui, il faut défendre l'environnement, oui, tout ça c'est vrai, mais la définition de ce qui est vert et ce qui n'est pas vert est une définition qui, de temps en temps, est mensongère, et nous, entreprise, nous devons correspondre à la volonté du client. Le client est roi, le client est le patron, et il faut lui servir ce qu'il veut. Et s'il veut, dans un certain nombre de pays, continuer à avoir un véhicule thermique ou continuer à avoir du plastique dans les hôpitaux parce que ça nous permet de travailler mieux, bien, c'est le client qui décide, et c'est pas forcément les gouvernements, la Commission européenne ou d'autres.
Et c'est pas forcément au détriment de la planète en elle-même.
Non, pas du tout.
Dites, parce que ce que vous dites, moi, quand je vous écoute, c'est il y a un côté un peu dogmatique. On passe d'un thème, ouais, d'un thème à un autre ou d'un anathème à un autre, et finalement, quand je vous écoute également, on a l'impression que l'écologie, c'est pas ce qu'on croit.
Ben non, parce que là, à l'heure actuelle, depuis la COP21, on a dit qu'il faut enlever le charbon. Et la conséquence, depuis la COP21, c'est que le charbon est passé de 23% d'utilisation dans le monde à 27%. Par conséquent, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a fait l'inverse de ce qu'on a dit ou l'inverse de ce qu'on veut. Donc c'est une question qu'il faut poser, mais qu'il faut poser au gouvernement et aux différentes commissions, aux soi-disant comités d'experts. Moi, je suis pour l'efficacité de la politique, donc je regarde où est l'efficacité. L'efficacité, c'est aujourd'hui de défendre l'environnement et d'avoir des clients qui sont d'accord avec la façon dont on défend l'environnement. Donc d'une certaine façon, toute entreprise est verte. Donc il n'y a pas à choisir entre vert ou pas vert, elle est forcément verte, mais elle n'est pas forcément verte de la façon dont la définition est donnée par les gouvernements et par les officines qui disent d'être plus verte que verte.
Ça a le mérite d'être très clair. Frédéric Ancel, les enjeux climatiques internationaux impactent les relations interétatiques. Est-ce que c'est un frein pour le marché mondial ?
Alors, ça peut être un frein, ça peut être un accélérateur. Lorsque vous avez soudainement ou assez soudainement besoin d'un certain nombre de matériel parce que vous subissez des effets des dérèglements climatiques, c'est pas un frein au commerce, au contraire. Hein, donc, vous accroissez votre demande, donc il y a une offre qui se met en place, et par conséquent, ce n'est pas nécessairement un frein. En revanche, et à l'inverse, vous pouvez tout à fait, effectivement, subir un frein très, très important. Vous subir une véritable avanie en termes économiques globaux. Je pense notamment, et je prends toujours cet exemple paradigmatique de ce qui est en train de se passer, de l'interaction très forte entre un certain nombre d'effets des dérèglements climatiques, notamment le réchauffement des pôles, et des États globalement pauvres, c'est l'Égypte. L'ouverture de la route du Nord-Est, qu'on appelle la grande route du Nord-Est, sibérien donc, avec maintenant 5, 6, peut-être 7% du gaz naturel mondial partant de Sibérie septentrionale, où vous avez des réserves pour je sais pas combien de centaines d'années, qui peut maintenant se faire, cette route est ouverte du côté de l'Est, donc du côté du Japon, de la Chine, de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, donc de très très gros clients du gaz russe. Et les métalliers maintenant, avec quelques brise-glace un peu efficace, même l'hiver peuvent passer. Alors le problème, pourquoi je vous parle de l'Égypte, c'est que jusqu'à présent, l'essentiel de ce gaz naturel passait par la Scandinavie, Gibraltar et Suez. Le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est la première rente nationale de l'Égypte. Chaque supertanker ou chaque métanier qui passe paye un droit, ce qui est parfaitement logique, ce qui est normal, dans le canal de Suez. Or, lorsque vous regardez l'économie, l'état de l'économie, de la démographie égyptienne, vous vous arrachez vos derniers cheveux en vous disant que s'il n'y a même plus la totalité de cette rente qui elle-même est la plus importante du pays, je parle bien de rente au sens très alors générique mais aussi négatif du terme, hein, dans un pays où pour l'instant en tout cas la valorisation du savoir n'est quand même pas la priorité absolue, c'est le moins qu'on puisse dire, du régime, alors vous pouvez vous attendre à une détérioration plus importante encore des conditions socio-économiques. Et par conséquent, une déstabilisation géopolitique du pays. Je me permets de vous rappeler, mais vous le savez, que le printemps arabe a commencé en Tunisie, s'est poursuivi immédiatement avec l'Égypte, et que c'est un État au sein du monde arabe et du Moyen-Orient extrêmement important. Vous voyez, donc c'est un exemple que je donne souvent, il y en a d'autres, hein, mais celui-ci me paraît d'autant plus important qu'il est souvent oublié.
Avec des indices de dommages collatéraux qui peuvent ébranler toute la région au Moyen-Orient. Ben, vous avez compris, je fais allusion notamment à Israël, qui est à côté, et qui donc, du coup, entre dans un schéma de réflexion qui est quand même assez troublant, voire même inquiétant.
On peut dire l'Égypte ne se situe pas au Benelux, bon ça je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, ni en Scandinavie. Donc vous avez à l'ouest la Libye, bon, qui n'est plus un État, enfin qui est un double régime, et en guerre civile quasi permanente. Vous avez au sud un pays dans lequel je me suis encore rendu récemment, notamment au Darfour, qui est en pleine guerre civile et en pleine déliquescence. Je pense au Soudan, qui d'ailleurs a perdu l'essentiel de ses réserves pétrolières, parce que ça se situe au sud, c'est le Soudan du Sud, devenu indépendant en 2011. Et effectivement, vous avez à l'est Israël, bien sûr, vous avez la bande de Gaza, tenue par le Hamas, qui est un mouvement islamiste radical qui a assez peu d'humour en général, et des djihadistes qui ont quitté la bande de Gaza ces dernières années pour aller frapper des policiers et des militaires égyptiens en plein Ramadan. Donc, des djihadistes sérieux, hein, dans leur magistère. Et l'Égypte aujourd'hui, je le dis en trois chiffres, hein, c'est 110 millions d'habitants, taux de fécondité scotché à 3,54, donc on n'est pas encore dans une vraie transition façon Maghreb, hein, en Égypte. Donc doublement de la population mathématiquement tous les 25 à 30 ans, et 95% de la population vivant sur 5% du territoire. Hein, bon, écoutez, les mêmes causes produisant les mêmes effets, avec aggravation de ce qu'on a dit tout à l'heure, entre autres, hein, je pense qu'on va effectivement vers des temps malheureusement très très durs.
On l'a vu, la pression, alors, à la fois la pression hydrique, la pression énergétique, est-ce que justement cette notion qui parfois d'ailleurs segmente les pensées, même les rend dogmatiques entre les écologistes ou les écolos, parce que parfois on fustige l'écologie, alors que dans l'écologie il y a une kyrielle finalement de courants écologiques et politiques. Ça serait, Frédéric Ancel, un peu simple de réduire la pensée écologique à un écologiste classique. Je veux dire, il y a quand même plusieurs courants. En quoi ça peut être un frein pour l'idée d'un espoir d'entente internationale, voilà. Ou est-ce que finalement, c'est un vœu pieux d'y penser?
Alors, deux réponses rapidement. La première, vous avez parfaitement de raison de rappeler ou de subodorer que Madame Lepage n'a jamais été à l'extrême gauche de l'échiquier politique français.
Je crois.
Monsieur Lalonde non plus. Enfin bon, c'est des écologistes, je crois. Enfin, tout à fait sincère.
Donc, il y a un courant écologique, il y a des courants écologistes.
Ah non, mais non seulement il y a des courants écologiques, mais il y a une écologie non punitive.
On est d'accord.
Enfin, on peut suivre une écologie non dogmatique. Tout à l'heure, Loïc parlait du pragmatisme ou de l'efficacité. On peut très bien éviter le plus possible que les variables de prise de décision soient de nature idéologique. En général, on va dans le mur lorsque c'est l'idéologie qui guide des politiques, notamment des politiques étatiques. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est celle qui concerne des États qui n'ont que faire des recommandations, alors scientifiques, que ce soit le GIEC ou pas, enfin peu importe. Un État comme la Chine, dirigé par le Parti communiste chinois, a priori ne s'intéresse pas beaucoup à la manière dont il faudrait peut-être faire pour rendre plus respirable l'air autour à Pékin. Je vous dis ça.
Merci de le dire.
Non mais j'ai pris beaucoup de précautions. J'ai rien contre. Franchement. Extraordinairement dogmatique. Oui. Donc, lorsque vous prenez d'autres États, alors qui sont nettement plus, pas difficile, nettement plus démocratiques. Je prends notamment le cas de l'Inde et des États d'Afrique subsaharienne. Ils vous disent la chose suivante, ce n'est pas stupide. Vous, en Europe, vous êtes autorisé pendant 100 ans, 150 ans à faire du germinal. Hein, donc, le charbon, vous en avez fait tenter plus. Ça a été l'une des contributions majeures à votre développement. Maintenant, vous êtes développé. Vous nous racontez vous êtes devenu riche et vous nous racontez que nous, on ne doit pas le faire. Donc, vous nous accordez 100 ans hein, de charbon ou de pétrole et puis ensuite, on verra. Donc, je caricature un peu, mais beaucoup de mes collègues universitaires en Afrique subsaharienne, dans une certaine mesure dans le monde d'Asie du Sud, mais je le connais beaucoup moins bien, vous disent ça. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, on ne s'en sortira que par le pragmatisme, par la négociation. Car vous ne pouvez pas imposer aujourd'hui à la Chine, à l'Inde, au Nigeria, de faire ce que bon vous semble, vous, en tant qu'Européens, occidentaux, que sais-je encore. Donc, par la négociation, mais de grâce, effectivement, par du pragmatisme et non pas par de l'idéologie.
Dernier point sur, justement, en ce qui vous concerne, vous avez récemment déclaré, lors des 8e rencontres géopolitiques de Trouville, Gérard Sebouk, le fondateur, me semble-t-il.
Absolument, dont Éthique était partenaire, et je remercie encore chaleureusement ici Sophie de Monton.
Absolument, j'y serai l'année prochaine.
Formidable.
Avec grand plaisir. Vous avez dit la chose suivante, Frédéric. L'avenir géopolitique de la France s'inscrit dans les mers. Pourquoi nous expliquer, et pourquoi, et comment, surtout comment faire?
Oui, les mers et les océans. Alors bon, je rappelle ce poncif, toujours important à rappeler. Nous avons le deuxième domaine maritime du monde, nous autres Français, et encore, en réalité, il est beaucoup plus intéressant que celui qui en dispose du premier, c'est-à-dire les Américains. Bon, parce qu'on est sur pratiquement toutes les mers et les océans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a dans les mers et les océans, notamment dans les abysses qu'on connaît encore extrêmement mal, et au fond, les fonds des abysses, on ne les connaît pas du tout. Il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, sur le plan énergétique, mais aussi peut-être alimentaire, énormément de ressources, je dis bien potentiellement. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, non pas d'exploitant ou d'exploiteur, je ne sais pas comment l'appeler, mais au moins la possibilité pour la France d'effectuer des recherches et d'exploiter au bon sens du terme, y compris éventuellement au sens écologique du terme, en protégeant ces écosystèmes, énormément de choses. Il faut absolument que les ressources halieutiques des zones économiques exclusives françaises qui dépassent, je crois, 9 ou 10 millions de kilomètres carrés, c'est gigantesque, puissent être protégées. Il faut absolument que nous puissions, que nous ayons, que nous donnions les moyens de les protéger face à des puissances qui, notamment dans l'Indo-Pacifique, et j'en vois une en particulier, paraissent de plus en plus gourmandes.
C'est extrêmement clair. Je voudrais qu'on va revenir dessus parce que ce que vous dites a beaucoup de sens. C'est sûr que quand vous dites que vous allez explorer les abysses dans les mers, je ne suis pas sûr que ça plaise à certains écolos. De toute façon, je ne pense pas qu'ils soient connectés sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Loïc Lefocq-Prigent, une réaction sur ce que va nous dire Frédéric Ancel. Ce que je voyais abonder dans le bon sens du terme.
Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je suis d'accord avec Frédéric depuis très longtemps. Bon. Mais je crois que l'important, c'est toujours de revenir au réel. Alors, le réel, c'est, par exemple, que certes, la Chine fait un effort considérable pour diversifier ses sources d'énergie, mais il continue aussi à développer le charbon au point qu'on est aujourd'hui à plus de 50% d'électricité d'origine charbonnière en Chine. Bon, de la même façon, en Inde, on a un développement du charbon qui est important. Donc dans tous ces pays qui sont énormes du point de vue de la population, la réalité, c'est que le charbon, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on est passé de 23 à 27%, parce que ces pays, effectivement, ont continué. Alors, lorsqu'on importe des biens de Chine ou d'Inde, et qu'on dit, nous on fait des progrès considérables, on oublie simplement que les voitures électriques venant des Chines sont des voitures à charbon. C'est ça qu'on oublie. Il y a un moment où il faut avoir le souci du réel.
Bien sûr.
C'est-à-dire c'est grâce à l'électricité issue du charbon que nous avons des batteries que nous payons à 100% parce que nous n'en faisons pas encore en France. D'abord. Donc il faut comprendre que, première chose, le réel est l'élément important. Deuxième chose, je pense qu'il faut bien saisir que le gouvernement mondial, qu'on imagine de temps en temps dans les officines écolo, est une lubie, mais une lubie dangereuse en plus, pour moi. C'est-à-dire que puisque une grande partie,
Jacques Attali, hein,
une grande partie, une grande partie mondial. Des choses se font par contrainte dans cette vie écolo. Vous faites ci, vous faites ça, et pour autre chose. Eh bien, vous tournez le dos à la démocratie et les derniers développements des grands décroissants, puisque disons grossièrement, il y a l'idée que d'un côté, l'humanité va croître et qu'elle va avoir envie de continuer à croître en niveau de vie. De l'autre, on dit non, c'est un danger capital, il faut absolument aller dans l'autre sens et décroître. La décroissance ne peut s'imaginer que par un régime totalitaire. Il n'y a pas de volonté personnelle de dire, écoutez, j'avais une voiture, maintenant je n'en ai plus. J'avais 4 vélos, j'en ai plus que 2.
Ah, je comprends. Mais est-ce qu'il y a une limite à la croissance?
Oui.
Si je vous entends, est-ce qu'il y a une limite à la croissance?
On n'en sait rien. Pour l'instant, on sait qu'on peut continuer à croître et qu'il n'y a pas de raison
Mais est-ce que sur le plan énergétique, la croissance,
sur le plan énergétique, il n'y a absolument aucune raison de considérer que la solution pour l'humanité, c'est la décroissance. C'est-à-dire que avec le nucléaire aujourd'hui, c'est-à-dire la première le premier jet qui est le nôtre aujourd'hui, il n'y a pas de raison de décroître. Ensuite, le deuxième jet, c'est-à-dire les neutrons rapides, bon, à ce moment-là, on va avoir 350 à 3000 ans de réserve avec les déchets nucléaires. Puis derrière, quand on aura fait la fusion, on aura une énergie abondante. Alors, ça peut déplaire aux décroissants, mais a priori, il n'y a pas de raison. De la même façon qu'on va parler du recyclage grâce à chez Environnement qui est auprès de nous, avec M. Burlot, il est clair que si jamais on a une politique intelligente de recyclage et si jamais, en plus, on va aller dans les mers, comme le suggère Frédéric, bon, bah, on va avoir une possibilité de développement encore. Donc, si jamais on veut augmenter et continuer à augmenter le nombre de personnes sur Terre. On est passé de 1 milliard à 7 milliards 5 pendant cette période industrielle. Si jamais on veut continuer à faire des enfants et les nourrir, il n'y a pas d'autre solution que de continuer à croître avec les moyens qui nous donnent la possibilité encore de croissance, la croissance modérée, croissance anti-gaspillage, croissance recyclable, enfin, vous voyez, l'ensemble des éléments qui nous permettent de vivre et d'espérer. Mais dire, comme l'ont fait un certain nombre de gens, il y aura seulement 4 voyages par vie en avion, il y aura... il y a 40 millions de véhicules en France aujourd'hui, nous allons passer à 20 millions, lesquels ? Il y a 20 millions qui vont soudain dire « Non, moi, je ne veux pas de véhicule. » Oui, parce que le vélo, c'est mieux. Oui. Non, moi, je quand dans les campagnes, le vélo, c'est pas mieux. Non, je veux dire, c'est pas ça. Donc, le sujet fondamental est celui de la croissance ou de la décroissance. Et pour moi, si jamais j'appuie sur le bouton décroissance, j'appuie sur le bouton antidémocratique et totalitariste.
C'est un excellent débat, effectivement, et on va l'approfondir. Mais l'autre pendant de l'écologie, c'est l'économie circulaire. On en parle beaucoup, hein, Pierre-Yves Burlot, je rappelle que vous êtes le directeur du développement durable de ces chez environnement. Alors, la valorisation des déchets, c'est un peu à la mode. On a l'impression que c'est un peu la dent creuse, mais en même temps aussi, c'est à la mode. Réussite et obstacle. Alors, juste pour faire un peu de pédagogie, qu'est-ce que recoupe concrètement le développement durable pour un groupe comme Séché Environnement, qui est spécialisé dans le traitement des déchets? Voilà. Essayons de casser aussi un peu les mythes et de revenir, comme le disait très justement Loïc Leploch-Prigent, à la réalité.
La réalité, c'est que tout acteur économique, quel qu'il soit, a des impacts environnementaux. Et l'objectif qui nous réunit aujourd'hui, c'est de voir comment ces impacts, on les réduit. Moi, je suis d'accord avec Loïc, il n'y a pas une solution verte, une solution qui n'est pas verte, définitivement. Par contre, il y a des plans de progrès qui sont à réaliser et qui vont finalement limiter les impacts de chaque indicateur environnemental qu'on va regarder. On a parlé du changement climatique, on pourrait parler de la consommation d'eau, on pourrait parler des pollutions émises, on a parlé de Zola précédemment, on pourrait parler de l'impact sur la biodiversité. Et on pourrait égrener ces impacts comme ça. Et donc, pour revenir à la fonction de directeur développement durable, cette fonction-là a pour but de réduire les impacts de son entreprise, parce que tout acteur économique a des
impacts. Parce qu'en plus de votre terrain de jeu, vous bossez pour les collectivités locales, que vous accompagnez, donc vous êtes sur un acte, une activité de décarbonation ou de traitement des déchets à l'échelle du territoire, hein, quel que soit le véhicule, hein, ça peut être des intercos, des communautés d'agglos ou des EPCI, mais vous avez aussi les entreprises, vous avez les deux plans. Donc en fait, vous avez le plan, pour bien en regaler, des collectivités, donc du souci public, et en même temps des entreprises qui se battent effectivement pour pouvoir rester et demeurer compétitives.
Exactement. Donc c'est la deuxième partie du travail, c'est de faire en sorte de réduire les impacts de nos clients. Ils sont effectivement des collectivités. On a aussi beaucoup d'industriels. C'est plus de 70% de nos clients dans le groupe Séché, puisqu'on a une spécialité sur les déchets industriels, les déchets dangereux, qui sont très liés à la production industrielle.
Les clients, c'est les patrons, vous avez vu.
Exactement. Et c'est à eux que le groupe Séché offre des solutions pour réduire leurs impacts environnementaux. Sur la question des déchets, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin, parce que là, on parle de fin de vie. Les déchets, c'est aussi potentiellement des nouvelles matières pour leur process de production, des matières qui peuvent réduire leur consommation de matière vierge, réduire leurs importations, on parlait de dépendance internationale, réduire leur impact climatique, potentiellement. Typiquement, on est spécialiste du recyclage des solvants, qui est utilisé en chimie, en pharmacie. Une tonne de solvant, c'est 5 fois moins d'émissions quand elle est recyclée comparée à du vierge. Donc, quand on recycle un solvant, on décarbone. Et donc, quand nos clients s'approvisionnent chez nous en solvant recyclé plutôt qu'en Asie, où la production de solvant est issue de matières fossiles, il décarbone, il internalise en Europe des productions, il réduit sa dépendance internationale.
Pardonnez-moi, moi j'entends ça alors, avec le côté néophyte, j'allais dire que ça relocalise de l'activité économique. Exactement. In situ. C'est un peu la mode en ce moment, comme ça a été la mode à un moment donné de délocaliser à fond. Ça me plaît beaucoup. Alors, je voudrais vous poser une question, vous allez me répondre, et je voudrais que chacun puisse y réagir. Est-ce que les déchets, c'est une question qui est posée, sont-ils ou pas le nouveau carburant, vous savez ? Alors, je dirais pas la nouvelle martingale, mais un peu l'or gris des développements futurs. Frédéric, si vous voulez bien.
Je suis convaincu que ça fait partie des solutions. Aujourd'hui, c'est un gisement qui est sous-exploité.
Parce que quand on lit les rapports, ça a l'air très emballant, très, très, très encourageant.
Mais le problème, il est notamment lié au modèle économique.
Ça coûte trop cher.
Alors, dans un système où la gestion des déchets n'a pas de base réglementaire forte, notamment pour mieux trier, mieux recycler, mieux valoriser ses déchets. Il y a un vrai manque de compétitivité des solutions de tri, de recyclage, de valorisation. De la même manière, quand on a des matières premières vierges peu chères, de l'énergie fossile peu chère, les substituer par des matériaux recyclés, par de l'énergie issue de déchets, n'est pas compétitif.
Je comprends. Et c'est là qu'on entre dans un schéma qui est quand même difficile à résoudre, parce que les entreprises ont besoin, justement, de ce pack de compétitivité. Oui, vous voulez ajouter ?
Exactement. Et c'est là où, dans des contextes où on voit les tensions sur les approvisionnements, on voit les tensions sur les énergies, avec des prix qui ont doublé, triplé, parfois plus pour les entreprises, les déchets sont devenus une solution. Et c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, ce secteur est en plein développement, justement parce que c'est une solution de compétitivité.
Y aura-t-il peut-être dans le futur, avec les développements industriels, avec la massification du marché, l'organisation de la structuration des marchés, la possibilité de faire baisser les coûts, justement,
bien sûr,
donner une compétitivité.
Bien sûr.
C'est un peu l'enjeu.
Exactement. Il y a un effet de ce qu'on appelle de ramp-up dans ces filières-là. Il faut qu'elles se structurent pour être compétitives. C'est sûr qu'une filière à qui on n'a pas laissé le temps de se structurer, elle ne sera jamais compétitive.
C'est très clair.
Et donc, là, on est en phase, effectivement, de fort développement. Et tout à l'heure, on parlait de croissance. Croissance, décroissance. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le secteur des déchets, si on prend le cas de l'Europe, mais en fait dans des pays en développement, on voit que la croissance du système, parce qu'on est dans un système qui croît, se fait avec des impacts environnementaux qui décroissent. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir une croissance économique qui est découplée des impacts environnementaux.
Intéressant.
Et c'est ça la clé du développement
durable. La croissance
durable
est un facteur de réduction finalement et d'amélioration.
Exactement.
Du cadre de la vie. Non, mais c'est intéressant.
Plus on va augmenter la valorisation économique sur les déchets, plus on va en faire des opportunités pour intégrer des nouveaux processus de production, plus on va
processus
réduire
de production, création de richesses, emplois créés, hein, Loïc Lepopulian. Voilà, c'est toute une chaîne vertueuse qui se met en place. Oui, Loïc.
Attention à ce qui est dit. C'est-à-dire que vous avez un premier sujet qui est, vous avez des déchets, comment on les trie, hein, c'est façon factuelle.
Oui,
hein,
oui, oui.
Comment on les trie. Et quel est l'effort technique, scientifique et financier que vous allez faire pour le tri. Alors, on en est là aujourd'hui et on n'a pas encore résolu. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'éléments dans les déchets qui peuvent être utiles. Simplement, encore faut-il arriver à aller les chercher. Et c'est l'enjeu des prochaines années, va être sur cette capacité ou non de porter l'effort scientifique, technique, industriel et financier sur le tri. On a le sentiment que tout est déjà fait, que tout va bien. Et les gens en particulier qui mettent leur truc dans, ça c'est papier, ça c'est plastique, ça c'est... Bon. Rien n'est fait à cet égard, parce que tout dépend de la composition réelle des instruments qui sont devenus des déchets. Et je prends un exemple simple, c'est non pas ce gobelet, qui est un gobelet unique, qui est vraisemblablement à usage unique, qui doit être prohibé, j'imagine, par le gouvernement, mais le gobelet qu'on nous sert maintenant, qui est un gobelet en carton, avec un revêtement plastique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la plaie du tri. C'est la plaie du tri, c'est-à-dire que faire un gobelet avec un revêtement plastique, c'est avoir à la fois du carton et du plastique. Comment on fait ? Ben, on incinère. Donc on n'est pas capable de séparer. Et donc c'est le problème, c'est essayer d'éviter les anathèmes et les vues toutes faites. J'enlève le plastique pour arriver à une loi anti-gaspillage, etc., qui dit j'enlève le plastique. J'enlève le plastique. Non, c'est l'inverse qui est en train de passer. C'est-à-dire que vous enlevez le plastique, il n'y a plus d'hôpital. Ah oui, mais j'ai enlevé le plastique. Alors vous faites une loi et puis derrière vous faites 40 pages de dérogation. Non, vous voyez, il faut essayer de reclasser le problème en disant attention, nous avons un problème de tri et ce problème de tri est fondamental. C'est pas la peine de mettre des bidules dans des sacs différents et arriver à la période où on trie, on peut pas trier, hop, on incinère tout. C'était pas la peine de faire le tri initial.
Oui.
Donc c'est ça le
je
sujet,
comprends.
Et ça c'est un sujet qui nécessite beaucoup de travail de la part des spécialistes du recyclage comme Séché Environnement, et un travail du côté des industriels, disant comment est-ce qu'on fait pour. Alors déjà, nous industriels, on a des déchets industriels que l'on classe dans des grands trucs, et puis tous les semaines ou tous les mois, on vous enlève on vous enlève toute la caisse. Bon, donc on a cette nécessité de ça. Mais le tri est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire on a des alliages, dans ces alliages on a des produits différents, vous voyez, c'est très compliqué et ça nécessite un travail considérable. Est-ce que ce travail considérable est uniquement celui de l'industrie ? Non, c'est le travail de la science, de la technique et de l'industriel, c'est un travail concerté et c'est un travail où l'État pourrait avoir une influence déterminante, parce qu'à certains moments, il pourrait dire, bah, tiens, on va dans cette direction. Et l'État fait l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire, et plutôt que d'essayer de trouver des solutions, il impose des solutions toutes faites qui ne sont pas des solutions. Et nous, industriels, nous trouvons pris à revers. C'est-à-dire, on a des gens en face de nous qui disent, voilà, c'est ça la règle, c'est ça le tableau. C'est ça le tableau Excel, c'est ça le... Bon, et on dit non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qu'on est en train d'essayer de faire pour arriver à avoir le vrai recyclage et la vraie dimension de notre travail.
Frédéric Ancel, l'économie circulaire est aussi une forme de pensée de l'écologie moderne. On dit l'économie circulaire, c'est relocaliser, c'est retraiter, et c'est un choix qui finalement a ses vertus, l'économie circulaire, dans le sens, c'est vraiment quelque chose qui est important. Est-ce que, à l'écoute de ce que vous avez entendu, vous pensez, quelle est l'importance du politique dans cette dimension ? Je parlais du politique local, des territoires. Est-ce qu'encore, on a un réel pouvoir, justement, d'essayer, alors, sans réglementer, parce que que dit Loïc le président, c'est arrêter de nous assommer avec de la réglementation punitive et autres, pour pouvoir justement accompagner ce mouvement. Je reviens juste pour étayer votre réponse sur cette idée que la croissance n'est pas forcément opposable à quelque chose qui détruirait quelque chose. Il n'y a pas de réflexion schumpeterienne dans l'idée de la croissance. Et en quoi on peut réconcilier les deux, Frédéric Ancel ?
Je vais répondre d'abord à votre deuxième question, elle est pour moi de nature philosophique. Je pense que l'absence de recherche de croissance relève d'une perversion de l'esprit.
la volonté de considérer qu'il faut régresser d'une manière ou d'une autre, comme par ailleurs l'eugénisme que j'ai en horreur, ce sont des défaites en race campagne, et c'est le rejet de ce que j'appelais tout à l'heure la valorisation du savoir. Lorsque, moi je dis à mes étudiants à Sciences Po, le progrès n'est pas performativement positif ou négatif. Tout dépend de ce que vous en faites. Un couteau n'a rien à faire dans le ventre d'une personne. Un couteau, c'est formidablement important pour couper des choses, de la viande, du beurre, que sais-je encore. Un avion n'a rien à faire contre une tour. Un avion, c'est formidablement important pour aller voir sa famille, ses parents, ou découvrir la nature ailleurs de chez soi. On va pas interdire les couteaux, les avions, sous prétexte que des imbéciles... Mais bon. Donc, je pense que... Et c'est pareil pour les enfants. On va pas empêcher les gens d'avoir des enfants sous prétexte que les enfants polluent. D'ailleurs, entre parenthèses, je dis avec un petit peu de force et de vigueur, vous m'en excuserez, mais les gens qui tiennent ce genre de discours, en général, je constate qu'ils ne se suicident pas eux-mêmes. Donc, parenthèse fermée. Je pense que là, on a quelque chose de philosophiquement très important. Il faut valoriser le savoir technique et technologique dans un encadrement et sous l'impulsion de pouvoirs publics, d'autant qu'on a la chance en France de vivre encore dans une belle et grande démocratie. Je pense que ça fonctionne sur deux jambes, cette histoire-là. Les industriels, les entrepreneurs, eux, ont pour vocation, pas exclusivement, mais aussi, sinon surtout, de gagner de l'argent. Formidable. C'est pas performativement méchant, négatif. Ils essayent, dans la meilleure mesure du possible, de trouver les moyens de fabriquer ou de proposer des services ou des produits de bonne qualité, parce que le client est roi, et si le client n'est pas content, il ne reviendra plus. Maintenant, les pouvoirs publics doivent encadrer sans imposer de manière totalitaire, évidemment, je rejoins ce qu'a dit Loïc, évidemment, l'économie et l'industrie. Je pense que dans un pays qui consacre 1,8 ou 1,9% de son PIB à la recherche et au développement, le fameux R&D, on n'y arrivera pas, ça ne suffit pas. Les Coréens, alors pardonnez-moi pour la virgule, pour la décimale que je mets pas, les Coréens sont à 3, les Israéliens à 4, les Américains à 3,5, les Chinois à 5. Écoutez, il faut être sérieux. Soit on décide de mettre les moyens, on les a en France et en Europe a fortiori, on les a, les moyens pour trouver comment faire mieux. Alors, plus vert, pas pour faire plaisir à la planète qui s'en fiche complètement, elle en a vu d'autres, elle en verra d'autres, mais pour le bien de l'humanité. Soit on ne le fait pas et on s'auto-punit ou on s'ampute effectivement, alors de voitures, de gamins, etc. Je trouve ça parfaitement grotesque. Donc, si vous voulez, moi, cette question-là que vous avez posée, je la considère comme fondamentalement philosophique. Maintenant, pour ce qui est, je réponds d'un mot parce que je ne suis pas un économiste, l'économie circulaire, je ne sais pas, la relocalisation, oui, ne serait-ce que pour des raisons stratégiques.
Oui.
Je pense qu'il ne faut plus jamais voir l'image qu'on a vue il y a 3 ans et demi maintenant, au plus fort de la crise du Covid, un avion militaire se posant sur une base militaire, à Villacoublay en l'occurrence, un avion français, protégé par des parachutistes, par des soldats en armes, avec pour protéger une cargaison de masques à 2 centimes. 2 centimes là. Parce qu'on ne savait plus les faire et parce qu'il fallait d'urgence en importer de Chine. Je pense que cette image devra rester pour un certain nombre d'historiens, notamment l'historien du politique, je ne sais pas, en tout cas de l'économie, du prophylactique, que sais-je encore, comme quelque chose de, comme un repoussoir. Je pense que ça ne doit plus jamais avoir lieu, surtout dans un pays, enfin la France et sur un continent, l'Europe, où quand même, depuis de nombreux siècles, pardon, j'insiste, on valorise la raison, le savoir, et dans une certaine mesure, le pragmatisme.
Merci Frédéric. Justement, sur ces champs d'environnement, vous êtes un opérateur industriel qui avait développé une technologie et une approche extrêmement pragmatique. Moi, j'ai envie de vous poser ces questions extrêmement pratico-pratiques. Moi, j'ai la chance de toutes les semaines d'aller dans les territoires et de rencontrer les maires de France. Je vais vous dire une chose, ils sont désespérés. Ils ne savent plus comment faire. Quel rapport vous entretenez avec les élus locaux ? Ils sont face à des injonctions contradictoires, qui voient fondre leurs dotations, qui leur voient où l'État transfère des compétences sans les recettes, à qui on enjoint effectivement de travailler la démographie ou le logement des nouveaux administrés. Comment vous faites
Mais voilà. Vous êtes en train de faire la critique de l'État, là, le pauvre Non. Mon pauvre ami, il va avoir du mal. Moi, je peux le faire. Oui. Moi, je suis plus ancien que lui. Je veux critiquer l'État. Lui, il faut quand même qu'il fasse attention.
Oui, non, mais je vais. Avec toute la raison. Non, mais vous avez raison, Loïc. Avec toute la raison qui. Bien évidemment, mais quel est le rapport que vous entretenez aujourd'hui avec les élus locaux et que vous demande-t-il très concrètement? D'ailleurs, Loïc ensuite répondra sur le parti politique.
Nous, partie en tant qu'entreprise, on leur offre des solutions. On est là pour ça. Mais ce qui est intéressant, et je vais revenir finalement à un des bienfaits aussi de la valorisation des déchets. Le déchet, c'est une ressource locale par excellence. On parlait de dépendance. Nous, on croit beaucoup à ce que les territoires, effectivement, qui produisent ces déchets, doivent aussi voir ces créations d'emplois, ces créations d'entreprises, ces créations d'activités économiques, qui ensuite sont autant de potentielles rentrées fiscales ensuite.
Ils sont en demande là-dessus.
Effectivement, quand on investit sur un territoire pour mieux collecter, pour mieux trier, pour mieux valoriser les déchets, on crée de l'emploi, on crée des revenus économiques, et ça ensuite, ça irrigue les différents territoires. Ça, c'est extrêmement intéressant. D'autant plus, et là je reviens sur aussi la caractéristique de l'entreprise Séché Environnement. Séché Environnement, c'est une entreprise familiale. Une familiale créée il y a 35 ans et avec une vision de développement sur le temps long. On parlait de la recherche économique de l'entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas la même vision du court terme, du moyen terme, du long terme. Et effectivement, quand on s'installe sur un territoire, quand on propose des solutions à ces acteurs, que ce soit des élus, que ce soit des entreprises, des industriels, que ce soit des associations, que ce soit tout client sur nos services, on s'inscrit dans le temps long. On n'est pas là pour venir ramasser la mise.
Je comprends bien. Vous voulez dire que la configuration de votre actionnariat familial, il y en a encore des entreprises familiales dans ce pays, fait que, dans leur vision du monde, dans la vision de l'économie, ils sont plutôt sur un temps très long.
Exactement.
À l'instar d'autres entreprises qui seraient détenues, on va le dire, par des fonds d'investissement par exemple, qui ont comme règle d'avoir une notion du profit plutôt court-termiste. Est-ce que c'est bien ça?
Alors,
on comprend bien. Hein.
Sur la première partie, oui, effectivement. Après, je ne parlerai pas pour les autres entreprises.
Je comprends.
Mais ce qui est sûr, c'est...
Il ne faut pas critiquer les entreprises. Non, fait, effectivement,
mais
ça
finalement,
arrive.
On critique personne.
Je crois qu'il est d'accord avec vous.
Donc, finalement,
on critique
personne. Mais je comprends.
Bah
justement, Loïc, voilà, sur le plan politique, votre parole est libérée.
Alors, complètement. Vous l'avez remarqué.
Alors, je vais en profiter. Non mais je vais en profiter. Alors, j'attendais ça, vous voyez, j'ai attendu 59 ans pour vous poser cette question. Alors, la question que je vous pose, c'est que dans la notion d'économie et d'écologie, si on veut traiter les deux sujets, on voit, et moi c'est ce que je vois, alors vous allez me donner votre avis, c'est que les élus locaux sont aux premières loges. Voilà ce que je vois dans, j'allais dire, la mise en pratique des pensées écologiques. C'est ce que je vois, avec un désespoir terrible, je vous le dis.
C'est normal, puisqu'ils ont un code de l'environnement qui intègre la plupart des contradictions. Et par conséquent, une administration qui est capable de prendre une partie du code, dire c'est ça qu'il faut que vous fassiez, et le lendemain d'arriver en disant mais non, il y a une partie du code qui dit ça, et c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc comme le code de l'environnement a grossi en 20 ans, autant que le code du travail, c'est-à-dire que le code du travail, 1910, il était épais comme ça.
Oui.
Le code de l'environnement, il y a 20 ans, pof, il était épais comme ça. Et vous avez des injections contradictoires, sans arrêt dans le code. Donc vous êtes en face de membres de l'administration qui appliquent ce qu'il a envie à l'intérieur d'un code qui dit tout et n'importe quoi. Et c'est là que intervient, en ce qui me concerne, en tant que chef d'entreprise et en tant libre de propos, à l'heure actuelle, c'est l'administration qui m'empêche de servir mes clients et d'être vert. C'est l'administration. Et l'administration en particulier qui est censée défendre l'environnement. Parce que comme elle a un code de l'environnement qui est contradictoire, elle est incapable de me dire vraiment ce qu'il faut faire. Alors, les gens de des territoires, les maires, se retrouvent devant des trucs impossibles. On leur dit, vous faites le tri sélectif. Alors on fait le tri sélectif comme ils disent. Et puis derrière, on n'a pas les moyens de faire le tri. Alors on met tout ensemble et on fait l'incinération. Alors à quoi ça servait de faire le tri? Alors vous avez des gens qui disent, mais bon, alors je me suis empêté à faire du tri.
Dans le même temps, on a des lois qui se contredisent, des articles qui se contredisent.
Il y a quelques fois des containers où on dit, au fond, mais etc. Puis hop, derrière, c'est le même container derrière. Donc à quoi on joue? Donc on voit bien que il n'y a pas de pragmatisme dans toute cette affaire, que les entreprises que je représente ici sont absolument persuadées qu'il faut faire quelque chose et le font en ce qui concerne leur tri à eux au moment où de la fabrication. Les différents composants sont mis dans des caisses différentes. On fait le travail. Mais derrière, il n'y a pas d'État qui fait son travail régalien correctement. Et il faut revenir à un État régalien qui fait son travail. Et moi, je ne le rencontre pas aujourd'hui dans mes entreprises. Suis un peu plus dur que c'est parce qu'il a pas le choix. Il faut qu'il travaille avec l'État.
Il est 10h26, il nous reste 4 minutes pour conclure. Frédéric Ancel, justement, on parlait de démocratie dans les territoires. On parle d'écologie comme une pensée, finalement, une pensée politique, et pourquoi pas? J'allais dire qu'il n'y a rien d'opposable. Vous l'avez rappelé, d'ailleurs, pour bien synthétiser ce que vous dites, les entreprises sont tout à fait acquises à cette transformation environnementale, et on se soucie de la planète. Soyons clairs, hein, y a pas d'entrepreneur qui dit on va massacrer la planète volontairement.
Ça n'existe plus.
Sur l'autel. Absolument, mais vous avez raison de le dire.
Sur l'autel du profit. Les gens ne sont pas comme ça.
Le grand salaud de capitalisme, vous savez, etc., qui en a rien à faire des populations, etc. C'est faux. Et merci d'avoir dit. Justement, vous qui avez beaucoup pensé la chose, cette démocratie dont vous parlez en France, qui était exemplaire, parce que vous la célébrez et vous le dites, ne passe-t-elle pas, finalement, par justement cette vitalité des élus locaux, qui sont quand même, il faut le dire, sous cette mandature, sévèrement ébranlés?
C'est l'une des caractéristiques de la démocratie en France. Le terme n'a pas encore été employé. Il faut absolument ce très beau nom. Il faut absolument l'employer. C'est celui de république. Démocratie, ça veut tout et rien dire. La République française est authentiquement démocratique, notamment parce qu'elle dispose de 36 000 relais extrêmement proche de la population, ce qu'on appelle aujourd'hui assez classiquement, de manière un peu galvaudée, les territoires. Et c'est en particulier la troisième qui a forgé ce maillage très important et qui se préoccupe au premier chef de l'environnement, à un rythme pluri-hebdomadaire. J'ai bien dit pluri-hebdomadaire, outre mes cours et mes bouquins. Je rencontre, parce que je fais des expertises et des conférences, je rencontre des chefs d'entreprise. Je n'en ai jamais entendu ni vu un me disant, ne serait-ce que, franchement, l'écologie, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce sont des gens, alors à Paris ou en province, le plus souvent c'est en province, qui sont extrêmement attachés à l'environnement, encore une fois, je le dis de manière non punitive et de manière pragmatique.
Merci beaucoup Frédéric Ancel, il est bientôt 10h30 et on a rattrapé le retard, mais je vous propose, pour bien clôturer, un mot de conclusion, un adjectif qui qualifierait, qui illustrerait nos propos. Pierre-Yves Burlot.
Il faut des solutions porteuses de sens, je pense qu'il faut, montrer à voir.
Donc vous choisiriez quoi, le mot sens?
Le mot sens. Sens.
Efficacité.
Efficacité.
Humanisme.
Humanisme. Pour faire preuve d'efficacité et mettre du sens, encore faut-il avoir une vision humaniste. Et ça sera la conclusion de cette table ronde. Un immense plaisir de vous avoir reçu, Frédéric Ancel. Et vous savez que, justement, il y a des livres que vous avez écrits, beaucoup. Vous savez, le premier que j'ai lu de vous, c'est « Géopolitique d'Israël ».
Très honoré.
Voilà. Et après, vous en avez écrit un autre qui s'appelle Géopolitique de Jérusalem aussi, qui était aussi un morceau du genre.
J'en ai fait 17, je vous en supplie, ne les citez pas.
Et vous avez publié un dernier livre, Frédéric.
Les voies de la puissance.
Absolument.
Penser la géopolitique au XXIe siècle, et j'ai l'immense plaisir d'avoir été lauréat à deux reprises pour ce modeste ouvrage.
Mais écoutez, moi, ça fait exactement 27 ans que je vous suis. Et j'ai cette chance de vous avoir reçu comme moi, finalement.
C'était dans vous.
Merci. En tout cas, Frédéric Ancel, je rappelle que vous êtes essayiste géopolitologue, professeur de relations internationales à Sciences Po et à PSB. Merci, un immense merci à Loïc Lefocq-Prigent, toujours avec cette parole libérée, ça nous fait du bien. Surtout, vous ne changez rien. Vous êtes président directeur général de LLFP Consulting. Et enfin, un immense merci, Pierre-Yves Bourleau. Bon, je ne vous ai pas fait trop parler politique. Je sais que, à la tête de Séchez Environnement, vous avez une vision très pragmatique. Mais vous avez expliqué très concrètement ce que vous faites. Et on en était ravis. Je rappelle que vous êtes, Pierre-Yves Bourleau, le directeur développement du durable chez Séchez Environnement. À suivre, à 10h30, nous allons avoir ce qu'on appelle en anglais un one-to-one. Moi, je suis des anglicistes, c'est pas exactement mon truc. On va faire un entretien, un avant-propos avec Anne-Catherine Husson-Traoré, qui est directrice générale de Novetic. Ça durera quelques minutes. Et ensuite, on enchaînera sur la deuxième table ronde. Ça va vous plaire, ça, Loïc. Greenwashing ou engagement réel? Avec Raphaël Leroy, directrice de l'engagement.
C'est ma réponse.
Oui, absolument. Directrice de l'engagement d'entreprise à la Banque Commerciale en France et BNP Paribas. Joseph Taïefé, le secrétaire général de Plastalliance, ainsi que Luc Châtel, ancien ministre, président de la plateforme automobile PFA, et Charles Becbédé, qui est le président et directeur général d'Audacia. C'est tout de suite, dans quelques instants, le temps de switcher les plateaux. Je vous souhaite une très belle journée et vous restez bien sûr connectés.
Vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023.